pas évoqué le chant des bergers à Beit Shaoul, où l'ange est venu pour le premier apporter la bonne nouvelle de la naissance de Dieu. Il est venu réveiller les bergers, il est venu les envoyer vers la crèche. Et à l'autre extrémité, il y aura encore un jardin, et encore un ange, et même deux, et encore des rochers, et ce sera le jardin où Jésus est non pas dans une grotte, comme à Bethléem, mais au tombeau. Mais le tombeau est vide. Et ce sont les anges qui, les premiers, ont dit, il est ressuscité, il n'est pas ici. C'est un ange qui a dit à Marie-Madeleine, ne pleure pas. Pour qui cherches-tu? Ne pleure pas. Les anges sont les messagers de la bonne nouvelle. Ils sont les consolateurs. Et nous demandons cette grâce avec ce pèlerinage qui approche de son tremplin, j'oserais dire, pour retrouver la vie quotidienne, cette grâce d'être partout où nous sommes des anges de paix, des anges de réconciliation pour ceux qui se disputent, qui se divisent autour de nous, des anges de consolation, consoler mon peuple. Nous devons être ces anges qui consolons en annonçant la résurrection du Christ, en annonçant notre fantastique avenir qui est devant nous, en annonçant cette gloire qui nous attend. Ce sont encore des anges qui, sur le mont des Oliviers, encore une colline avec des oliviers, eh bien, vont dire, pourquoi pleurer? Qu'est-ce que vous faites là? Celui que vous venez de voir partir, il va revenir de la même manière. Ils annoncent le retour en gloire du Christ. Ils orientent vers demain, vers ce qui est au-devant de nous, ce qui est en avant de nous. Et nous devons être vraiment, comme je disais hier, ces courageux témoins de l'avenir de l'homme sans lequel il n'y a que le désespoir, sans lequel toute épreuve, toute souffrance est révoltante, est incompréhensible. S'il n'y a qu'une partie et des béatitudes, s'il n'y a que les larmes et la pauvreté et la guerre, et s'il n'y a pas ce lieu où actuellement, ou en ce moment même, il y a un bonheur sans nom, eh bien, c'est la révolte. Et nous devons être ces anges qui transformons la révolte en espérance. Notre monde est en crise, moins de foi que d'espérance. C'est l'espérance qui est tuée. Et une petite Libanaise me disait à Léoné, quel obus pourra jamais tuer l'espérance? Les obus peuvent tout détruire, ils peuvent tuer nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos parents, ils peuvent détruire, massacrer, mais aucun obus ne pourra jamais atteindre l'espérance. Aucune épreuve ne devrait atteindre notre espérance, mais au contraire, l'attiser, la rendre plus forte, plus belle. Et nous devons consoler en répandant cette lumière de la gloire de Marie, cette lumière dont je vous parlais hier, sortant des mains de Marie, cette lumière dans laquelle les petits-enfants se voient eux-mêmes tels qu'ils sont aux yeux de Dieu, cette lumière la répandre sur toute souffrance, sur toute épreuve, qu'ils en soient comme illuminés par la lumière qui vient d'au-devant de nous. Et c'est pour cela qu'il y a encore un ange qui est encore dans un autre jardin où il y a encore des oliviers, et c'est le jardin de Gethsémani, toujours des anges, des oliviers, des jardins. Oui, ça va tout ensemble. Mais cette fois-ci, c'est celui de l'agonie, dont Jacques a été témoin. Je disais hier comment il a été témoin de la transfiguration sur le Tabor pour pouvoir être témoin sans en être complètement écrasé de ces gouttes de sang qui tombe des yeux, du visage de Jésus, un petit peu comme dans l'apparition ici, ils vont tomber de son corps dans le calice. Et Jacques est témoin de cet immense mystère, des larmes de sang de Dieu versées sur notre terre. Et si tellement souvent, dans les apparitions contemporaines de Marie, elle pleure sur le monde, c'est la béatitude des larmes, elle pleure pour consoler. Les larmes de Marie essuient nos larmes. comme les blessures du Christ guérissent nos propres blessures, comme son côté transpercé et ouvert vient ouvrir toutes les blessures de notre cœur pour que ce soit la vie qui les traverse, qu'il n'y ait plus d'amertume, plus d'infection, mais que ça demeure des blessures toujours ouvertes, de plus en plus ouvertes, mais pour donner la vie. Comme le sein maternel qui s'ouvre pour donner la vie, pour mettre au monde. Ainsi le cœur de Jésus s'est ouvert. Et quand Thomas exige, pour croire, de toucher, de voir, quoi ? Non pas la gloire, non pas l'auréole de Jésus, mais ses plaies. Thomas a l'intuition de l'amour. C'est extraordinaire. Pour être sûr que c'est Dieu, il ne demande pas à voir la gloire, il demande à voir les marques des blessures. Si je ne vois, etc. Et Jésus en est tellement heureux qu'il vient immédiatement, exprès pour lui, pas immédiatement, 8 jours après, exprès pour Thomas. Thomas, tu as demandé à me voir et me toucher. Eh bien, regarde-moi, touche-moi, même enfonce ta main dans mon côté ouvert. Et à partir de maintenant, touche-moi, vois-moi dans mon Eucharistie, dans mon Église, dans les plus pauvres, les plus petits de mes frères. Vous voyez ? Et c'est cette intuition de l'amour et tout ce qu'on disait sur le New Age hier qui va chercher à nous présenter un espèce de soi-disant Christ fardé à la Hollywood, j'oserais dire, sans souffrance, pour qui la souffrance n'est qu'une illusion, comme le voudrait le Bouddha. Eh bien, ça n'a rien à voir avec notre Dieu, qui a voulu tout partager de nos souffrances, qui a voulu garder au ciel, garder dans sa gloire, garder ce qu'il avait reçu de plus beau de son passage parmi nous et qui est le partage de nos souffrances à chacun de nous. Et c'est pourquoi il est au ciel avec ses blessures, mais des blessures glorifiées. Et c'est pour ça qu'il veut, dès aujourd'hui, glorifier déjà nos souffrances, nos blessures. Je pense à cette petite Isabelle qui était au congrès de Versailles, qui était venue avec son fiancé, qui n'était pas croyant. Alors il lui avait dit, écoute, si tu veux vraiment... Il n'était pas encore fiancé. Mais enfin, si tu veux vraiment que je t'épouse, eh bien écoute, il faut que tu te convertisses, parce que sinon c'est pas possible. C'est pas possible, il va y avoir trop de choses que je ne pourrais jamais partager avec toi. Et alors il vient avec des pieds de plomb, uniquement pour ses beaux yeux à elle, il s'appelle Daniel. Il est complètement retourné par un témoignage. Pendant 3 semaines, il devient un ange d'évangélisation dans toute sa famille. Chaque fois qu'il retrouve Isabelle, il commence par prendre 1 heure de prière ensemble. Il a un petit coin de prière dans sa chambre. 3 semaines après, il est rappelé au ciel, dans la gloire de Dieu, le 25 mars. Et Isabelle, admirable, qui m'écrit et qui m'a dit ensuite, « Tu sais, le Seigneur m'a exaucé au-delà de tous mes désirs. J'aimais tellement Daniel que ce que je voulais de plus pour lui, c'était sa rencontre avec Dieu, qu'il connaisse son Sauveur Jésus. Et maintenant, il est dans sa gloire. Et le Seigneur m'a exaucé au-delà de ce que j'aurais jamais imaginé. Et je vis une intimité, une communion avec lui, comme jamais je n'aurais pu le faire. » Et elle me dit, « La sépulture a été comme un mariage avec Dieu. » Eh bien, je dis, ça c'est la gloire du Tabor qui rejaillit sur Gethsemane. Ça c'est la gloire qui sort des mains de Marie et qui adoucit nos plus terribles épreuves. Et en même temps, je recevais la lettre d'une jeune femme qui venait aussi de perdre un jeune témoin du Christ qui était parti 2 ans au Brésil, Philippe, 24 ans. Il s'était converti durant une Eucharistie à Saint-Étienne, au moment où le peuple disait, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir », complètement bouleversé. Et il devient un évangélisateur. Et lui aussi est parti vers Dieu à 24 ans. Et sa petite femme, Béatrice, qui m'envoie sa photo, avec derrière juste la phrase « Philippe, 10 novembre 88, époux du Christ, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Voilà. Si tu crois, tu verras. Eh bien, nous demandons vraiment que depuis ici, Fatima, depuis ce que nous vivons ici à Fatima, eh bien, nous recevions cette lumière de gloire par avance, qui est capable de glorifier, de rendre, comment dire, fécond, de féconder nos souffrances qui seront désormais toutes, toutes offertes pour la paix dans le monde, pour le salut du monde, pour que plus un seul enfant de Dieu ne soit perdu et soit loin des bras de Dieu. Et c'est comme ça que nous pourrons fleurir là où nous sommes semés et plantés. Il me revient un mot de Marie à Medjugorje quand elle dit « Quand vous priez, vous êtes tellement plus beau, vous êtes comme les fleurs qui, après les neiges, font voir toute leur beauté. Et toutes les couleurs deviennent indescriptibles. De même, vous aussi, vous déployez devant Dieu tout ce qui est beau en vous pour lui plaire. » Voilà. Déployez tout ce que le Seigneur nous a donné de plus beau en nous. L'offrir au Seigneur pour le salut du monde. Et nous demandons vraiment aux anges aussi cette grâce de l'évangélisation, d'annoncer Jésus jusqu'à être prêt à offrir notre vie pour lui. Nous parlions de Jean-Paul II, qui sans cesse est prêt à verser son sang pour lui, qui maintenant est prêt à partir au Liban et qui peut-être va verser son sang pour la prise au Liban. Qui le sait? Jean-Paul II, qui a canonisé récemment 4-5 jeunes qui ont préféré perdre la vie plutôt que perdre leur virginité. Et Jean-Paul II a eu le courage de dire, ces jeunes saints vous sont remis à vous les jeunes en tant que témoins d'un amour en marche, d'un amour capable de voir au-delà de l'humain, au-delà du quotidien, au-delà de l'immédiat, du ponctuel, d'un amour capable de voir Dieu, qui est le propre des anges, ceux qui voient Dieu. Et nous devons tous être des voyants, ceux qui voient Dieu avec les yeux du cœur. Ils vous sont remis, ces jeunes saints, comme un exemple de foi libre de tout compromis, comme un hymne d'espérance pour les nouvelles générations que l'Esprit continue d'appeler aux sources de l'Évangile. Et aujourd'hui, ils sont placés pour annoncer la joie de rendre gloire au Christ en son propre corps, en son Eucharistie. Ces jeunes crient leur message avec la force silencieuse du martyr, et avec leur jeune sang, ils chantent hier, aujourd'hui et toujours. Eh bien, les deux enfants, Jacinta et Francesco, qui sont déjà partis auprès du Seigneur, comme des martyrs, parce qu'ils ont souffert atrocement, vraiment, de la persécution, du mépris, de la calomnie, tout ce qu'il y a de pire, et ils n'avaient que 9, 10, 11 ans. Et puis, des souffrances terribles dans leur hôpitaux. Eh bien, ce sont des merveilleux jeunes saints pour aujourd'hui, parce qu'ils étaient en même temps toujours joyeux, toujours de bonne humeur, toujours gais, toujours souriants, malgré leur terrible souffrance. Et ça me rappelle ce mot d'un jeune atteint du sida qui m'écrivait récemment. J'ai découvert ce qu'est la sainteté. La sainteté, c'est Jésus souriant sur la croix. C'est extraordinaire. Cette définition de la sainteté par ce jeune qui va mourir dans de terribles souffrances d'ici quelques semaines. Jésus en train de sourire sur la croix. Catherine de Sienne voit Jésus sourire sur la croix. Au Moyen-Âge, on représente Jésus souriant sur la croix. Et nous demandons à Marie cette grâce du sourire, de la joie contagieuse communiquée à travers toutes les souffrances que le Seigneur pourra nous donner. Je me souviens de ce mot d'une fille qui m'écrivait après avoir visité le Colisée au mois de juin. Elle me dit, j'ai senti dans le Colisée que si eux avaient renié, moi je ne vivrais pas. Ah, je ne vivrais pas. D'un seul coup, j'ai compris que je n'avais plus le droit de jouer avec ma foi, qu'elle était un trésor à partager sans repos et jusqu'au bout. Eh bien, les souffrances de Jacinta et Francesco et de tous les martyrs, que ce soit le martyr violent de tant et tant de centaines de milliers de Russes, ou que ce soit un martyr plus invisible, plus caché de tant d'autres, cela veut dire que nous ne pouvons plus jouer avec notre foi. Nous ne pouvons plus nous contenter de flirter avec Dieu. Il s'agit de nous livrer à lui dans un amour sans nom. Et c'est ce que Marie veut vous dire ici à Fatima. Et Jésus vous dit aussi, courage, j'ai vaincu le monde. Quelles que soient les agressions, les attaques qui vont être de plus en plus violentes d'ici l'an 2000, parce que nous entrons dans le grand temps du combat de Dieu, du combat eschatologique, du combat des derniers temps, la lumière et les ténèbres. Quelle que soit la violence de ce combat, nous sommes plus forts, les plus forts. Nous sommes les grands vainqueurs par l'amour du Christ qui a livré sa vie. Nous sommes les vainqueurs, ce que proclame Saint Michel, le chef des milices célestes, qui est vainqueur, et Marie qui est victorieuse de tous les combats de Dieu, comme l'Église la proclame. Et quand nous sommes avec Marie, nous n'avons peur de rien, nous n'avons peur de personne. Plus on approche de l'an 2000, plus le mystère même de l'an 2000 va être attaqué. Et le mystère de l'an 2000, du bimillénaire, de la grande révolution de l'amour, ce bimillénaire où nous allons revendiquer le droit premier de l'homme, qui est le droit à la divinisation, n'est-ce pas ? Eh bien, l'an 2000, c'est l'anniversaire et la réactualisation de Noël, je le rappelais à Bethléem pour ceux qui étaient là. Non pas de la croix, bien qu'il y ait la croix à Noël. Il y a le massacre des innocents, il y a les portes fermées, il y a l'extrême pauvreté. Mais il y a cette douce joie chantée par les anges. Et quand nous sommes à Bethléem, la croix va demeurer. Mais il va y avoir les anges, leur lumière dans la nuit, leur chant dans la nuit. Pour nous conforter, nous consoler, nous rappeler que le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes. Et c'est à cause de ce mystère de la naissance de Jésus que Satan attaque aujourd'hui l'enfance qui est massacrée parce qu'elle a été rendue sacrée par l'enfance de Dieu. Que Satan attaque nos familles parce qu'il n'a pas pu attaquer la sainte famille de Nazareth. Que Satan attaque l'Église parce qu'il ne peut rien contre l'Église par excellence, qui est la Trinité Sainte. Alors il se venge sur les frères de Jésus, vous voyez, ne pouvant plus tuer Jésus. C'est nous qui nous cherchons à tuer, qu'il cherche à tuer. Et me revenait il y a quelques jours une chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est de penser que ce drame des familles monoparentales, par exemple, c'est comme une espèce de perversion, si on peut dire, du mystère de la conception virginale, où Jésus n'a pas de père selon la chair, vous voyez. Et tous ces enfants qui ne connaissent pas leur père, qui grandissent sans leur père, cet immense drame d'aujourd'hui, c'est comme une espèce de caricature diabolique du mystère de la conception virginale. Mais dans ce monde de combat et de lutte, nous sommes victorieux, nous sommes les grands vainqueurs. Est-ce que c'est à vous que j'ai montré ou parlé de cette petite photo de Chine? Je vous l'ai montré, je crois. Bien voilà, c'est ça, à Lourdes, je crois que j'en parlais. Eh bien voilà, la faiblesse offerte est plus forte que toutes les puissances du monde. Et si vos mains sont jointes dans la prière, si vous êtes des petits-enfants, si vous recevez de Marie votre enfance divine, votre innocence divine, alors les anges sont là, à vos côtés, à vous protéger, à lutter en vous et pour vous, et alors vous serez remplis de ce courage des martyrs, avançant vers la mort, en chantant leur joie de participer au grand travail du Sauveur, de sauver le monde. Telle sera votre joie. Amen.